Chapitre 12. En descendant au préau, j'ai trouvé les auteurs du crime commis à Nanterre et mon petit compagnon de chaîne sous le couperet pour une participation involontaire à ce crime, reprit Jacques Collin. J'ai appris que Bibi Lupin trompe la justice, que l'un de ses agents est l'assassin des Crottat. N'était-ce pas, comme vous dites, providentiel? J'ai donc entrevu la possibilité de faire le bien, d'employer les qualités dont je suis doué, les tristes connaissances que j'ai acquises au service de la société, d'être utile au lieu d'être nuisible, et j'ai osé compter sur votre intelligence, sur votre bonté. » L'air de bonté, de naïveté, la simplesse de cet homme, se confessant en termes sans âcreté, sans cette philosophie du vice qui, jusqu'alors, le rendait terrible à entendre, eût se fait croire à une transformation. Ce n'était plus lui. « Je crois tellement en vous que je veux être entièrement à votre disposition, » reprit-il avec l'humilité d'un pénitent. « Vous me voyez entre trois chemins, le suicide, l'Amérique et la rue de Jérusalem. Bibi Lupin est riche, il a fait son temps. C'est un factionnaire à double face et si vous vouliez me laisser agir contre lui, je le paumerais marron, je le prendrais en flagrant délit, en 8 jours. Si vous me donnez la place de ce gredin, si vous me donnez la place de ce gredin, vous aurez rendu le plus grand service à la société. Je n'ai plus besoin de rien, je serai probe. J'ai toutes les qualités voulues pour l'emploi. J'ai de plus que Bibi Lupin de l'instruction. On m'a fait suivre mes classes jusqu'en rhétorique. Je ne serai pas si bête que lui, j'ai des manières quand j'en veux avoir. Je n'ai pas d'autre ambition que d'être un élément d'ordre et de répression au lieu d'être la corruption même. Je n'embaucherai plus personne dans la grande armée du vice. Quand on prend à la guerre un général ennemi, voyons, monsieur, on ne le fusille pas, on lui rend son épée et on lui donne une ville pour prison. Eh bien, je suis le général du bagne et je me rends. Ce n'est pas la justice, c'est la mort qui m'a abattu. La sphère où je veux agir et vivre est la seule qui me convienne et j'y développerai la puissance que je me sens. Décidé. Et Jacques Collin se tint dans une attitude soumise et modeste. « Vous avez mis ces lettres à ma disposition, » dit le procureur général. « Vous pouvez les envoyer prendre. Elles seront remises à la personne que vous enverrez. » « Et comment ?» Jacques Collin lut dans le cœur du procureur général et continua le même jeu. « Vous m'avez promis la commutation de la peine de mort de Calvi en celle de 20 ans de travaux forcés. » « Oh, je ne vous rappelle pas ceci pour faire un traité, » dit-il vivement, en voyant faire un geste au procureur général. « Mais cette vie doit être sauvée par d'autres motifs. Ce garçon est innocent. »« Comment puis-je avoir les lettres ?» demanda le procureur général. « J'ai le droit et l'obligation de savoir si vous êtes l'homme que vous dites être. Je vous veux sans condition. » Envoyez un homme de confiance sur le quai aux fleurs, il verra sur les marches de la boutique d'un quincaillier, à l'enseigne du bouclier d'Achille. La maison du bouclier? C'est là, dit Jacques Collin avec un sourire amer, qu'est mon bouclier. Votre homme trouvera là une vieille femme, mise, comme je vous le disais, en marchande de marée qui adhérente, avec des pendeloques aux oreilles, et sous le costume d'une riche dame de la halle, il demandera Madame de Saint-Estève. N'oubliez pas le « de ». Et il dira « Je viens de la part du procureur général chercher ce que vous savez. À l'instant, vous aurez 3 paquets cachetés. »« Les lettres y sont toutes, » dit M. de Granville. « Allons, vous êtes fort, vous n'avez pas volé votre place, » dit Jacques Collin en souriant. « Je vois que vous me croyez capable de vous tâter et de vous livrer du papier blanc. »« Vous ne me connaissez pas, » ajouta-t-il. « Je me fie à vous comme un fils à son père. » « Vous allez être reconduit à la conciergerie, » dit le procureur général, « et vous y attendrez la décision qu'on prendra sur votre sort. » Le procureur général sonna, son garçon de bureau vint, et il lui dit « Priez M. Garnery de venir s'il est chez lui. » Outre les 48 commissaires de police qui veillent sur Paris comme 48 providences au petit pied, sans compter la police de sûreté, et de là vient le nom de Cardeuil, que les voleurs leur ont donné dans leur argot, puisqu'ils sont 4 par arrondissement. Il y a 2 commissaires, attachés à la fois à la police et à la justice, pour exécuter des missions délicates, pour remplacer les juges d'instruction dans beaucoup de cas. Le bureau de ces 2 magistrats, car les commissaires de police sont des magistrats, se nomme le bureau des délégations, car ils sont en effet délégués chaque fois et régulièrement saisis pour exécuter soit des perquisitions, soit des arrestations. Ces places exigent des hommes mûrs, d'une capacité éprouvée, d'une grande moralité, d'une discrétion absolue, et c'est un des miracles que la Providence fait en faveur de Paris, que la possibilité de toujours avoir des natures de cette espèce. La description du palais serait inexacte sans la mention de ces magistratures préventives, pour ainsi dire, qui sont les plus puissants auxiliaires de la justice. Car si la justice a, par la force des choses, perdu de son ancienne pompe, de sa vieille richesse, il faut reconnaître qu'elle a gagné matériellement. À Paris surtout, le mécanisme s'est admirablement perfectionné. M. de Granville avait envoyé M. de Chargeboeuf, son secrétaire, au convoi de Lucien. Il fallait le remplacer pour cette mission par un homme sûr. Et M. Garnery était l'un des deux commissaires aux délégations. « Monsieur le procureur général, reprit Jacques Collin, je vous ai déjà donné la preuve que j'ai mon point d'honneur. Vous m'avez laissé libre et je suis revenu. Voilà bientôt 11 heures. On achève la messe mortuaire de Lucien, il va partir pour le cimetière. Au lieu de m'envoyer à la conciergerie, permettez-moi d'accompagner le corps de cet enfant jusqu'au Père Lachaise. Je reviendrai me constituer prisonnier. » « Allez, dit M. de Granville, avec une inflexion de voix pleine de bonté. Un dernier mot, monsieur le procureur général. L'argent de cette fille, de la maîtresse de Lucien, n'a pas été volé. Dans le peu de moments de liberté que vous m'avez donné, j'ai pu interroger les gens. Je suis sûr d'eux, comme vous êtes sûr de vos deux commissaires aux délégations. Donc on trouvera le prix de l'inscription de rente vendue par mademoiselle Esther Gobseck dans sa chambre à la levée des scellés. La femme de chambre m'a fait observer que la défunte était, comme on dit, cachotière et très défiante, elle doit avoir mis les billets de banque dans son lit. Qu'on fouille le lit avec attention, qu'on le démonte, qu'on ouvre les matelas, le sommier, on trouvera l'argent. Vous en êtes sûr? Je suis certain de la probité relative de mes coquins, ils ne se jouent jamais de moi. J'ai droit de vie et de mort sur eux, je juge et je condamne, et j'exécute mes arrêts sans toutes vos formalités. Vous voyez bien les effets de mes pouvoirs. Je vous retrouverai les sommes volées chez M. et Mme Crottat. Je vous sers Marron, un des agents de Bibi Lupin, son bras droit, et je vous donnerai le secret du crime commis à Nanterre. C'est des arts. Maintenant, si vous me mettez au service de la justice et de la police, au bout d'un an, vous vous applaudirez de ma révélation, je serai franchement ce que je dois être, et je saurai réussir dans toutes les affaires qui me seront confiées. Je ne puis rien vous promettre que ma bienveillance. Ce que vous me demandez ne dépend pas de moi seul. Au roi seul, sur le rapport du garde des Sceaux, appartient le droit de faire grâce, et la position que vous voulez prendre est à la nomination de M. le préfet de police. « Monsieur Garnery, dit le garçon de bureau. Sur un geste du procureur général, le commissaire des délégations entra, jeta sur Jacques Collin un air de connaisseur, et il réprima son étonnement sur ce mot « Allez !» dit par M. de Granville à Jacques Collin. « Voulez-vous me permettre, répondit Jacques Collin, de ne pas sortir avant que M. Garnery ne vous ait rapporté ce qui fait toute ma force, afin que j'emporte de vous un témoignage de satisfaction ?» Cette humilité, cette bonne foi complète, touchèrent le procureur général. « Allez, dit le magistrat, je suis sûr de vous. » Jacques Collin salua profondément et avec l'entière soumission de l'inférieur devant le supérieur. 10 minutes après, M. de Granville avait en sa possession les lettres contenues en 3 paquets cachetés et intacts. Mais l'importance de cette affaire, l'espèce de confession de Jacques Collin, lui avait fait oublier la promesse de guérison de Madame de Sérisy. Jacques Collin éprouva, quand il fut dehors, un sentiment incroyable de bien-être. Il se sentit libre et né pour une vie nouvelle. Il marcha rapidement du palais à l'église Saint-Germain-des-Prés, où la messe était finie. On jetait l'eau bénite sur la bière et il put arriver assez à temps pour faire cet adieu chrétien à la dépouille mortelle de cet enfant si tendrement chéri. Puis il monta dans une voiture et accompagna le corps jusqu'au cimetière. Dans les enterrements, à Paris, à moins de circonstances extraordinaires, ou dans les cas assez rares de quelques célébrités décédées naturellement, la foule venue à l'église diminue à mesure qu'on s'avance vers le Père Lachaise. On a du temps pour une démonstration à l'église, mais chacun a ses affaires et y retourne au plus tôt. Aussi, des 10 voitures de deuil n'y en eut-il pas 4 de pleine. Quand le convoi atteignit au Père Lachaise, la suite ne se composait que d'une 12aine de personnes, parmi lesquelles se trouvait Rastignac. « C'est bien de lui être fidèle, » dit Jacques Collin à son ancienne connaissance. Rastignac fit un mouvement de surprise en trouvant là Vautrin. « Soyez calme, lui dit l'ancien pensionnaire de Madame Vauquer. Vous avez en moi un esclave, par cela seul que je vous trouve ici. Mon appui n'est pas à dédaigner, je suis ou je serai plus puissant que jamais. Vous avez filé votre câble, vous avez été très adroit, mais vous aurez peut-être besoin de moi, je vous servirai toujours. » « Mais qu'allez-vous donc être ?»« Le pourvoyeur du bagne au lieu d'en être locataire, » répondit Jacques Collin. Rastignac fit un mouvement de dégoût. « Ah, si l'on vous volait !» Rastignac marcha vivement pour se séparer de Jacques Collin. « Vous ne savez pas dans quelles circonstances vous pouvez vous trouver. » On était arrivé sur la fosse creusée à côté de celle d'Esther. Deux créatures qui se sont aimées « et qui était heureuse, » dit Jacques Collin. « Elles sont réunies. C'est encore un bonheur de pourrir ensemble. Je me ferai mettre là. » Quand on descendit le corps de Lucien dans la fosse, Jacques Collin tomba raide, évanoui. Cet homme si fort ne soutint pas ce léger bruit des pelletés de terre que les fossoyeurs jettent sur le corps pour venir demander leur pourboire. En ce moment, deux agents de la brigade de sûreté se présentèrent, reconnurent Jacques Collin, le prirent et le portèrent dans un fiacre. « De quoi s'agit-il encore ?» demanda Jacques Collin lorsqu'il eut repris connaissance et qu'il eut regardé dans le fiacre. Il se voyait entre deux agents de police, dont l'un était précisément Ruffard. Aussi lui jeta-t-il un regard qui sonda l'âme de l'assassin jusqu'au secret de la gonore. « Il y a que le procureur général vous a demandé, » répondit Ruffard, « qu'on est allé partout et qu'on ne vous a trouvé que dans le cimetière où vous avez failli piquer une tête dans la fosse de ce jeune homme. » Jacques Collin garda le silence. « Est-ce Bibi Lupin qui me fait chercher ?» demanda-t-il à l'autre agent. « Non, c'est Monsieur Garnery qui nous a mis en réquisition. » « Il ne vous a rien dit ?» Les deux agents se regardèrent en se consultant par une mimique expressive. « Voyons, comment vous a-t-il donné l'ordre ?»« Il nous a, répondit Ruffard, ordonné de vous trouver sur le champ en nous disant que vous étiez à l'église Saint-Germain-des-Prés, que si le convoi avait quitté l'église, vous seriez au cimetière. » « Le procureur général me demandait, » se dit Jacques Collin à lui-même. « Peut-être. » « C'est cela, » répliqua Jacques Collin, « il a besoin de moi. » Et il retomba dans son silence, dont s'inquiétèrent beaucoup les deux agents. À 2h30 environ, Jacques Collin entra dans le cabinet de M. de Granville et y vit un nouveau personnage, le prédécesseur de M. de Granville, le comte Octave de Beauvan, l'un des présidents de la Cour de cassation. « Vous avez oublié le danger dans lequel se trouve Mme de Sérisy, que vous m'avez promis de sauver. » « Demandez, monsieur le procureur général, » dit Jacques Collin en faisant signe aux deux agents d'entrée. « Dans quel état ces drôles m'ont trouvé ?»« Sans connaissance, monsieur le procureur général, au bord de la fosse du jeune homme qu'on enterrait. »« Sauvez madame de Sérisy, » dit monsieur de Beauvan, « et vous aurez tout ce que vous demandez. »« Je ne demande rien, » reprit Jacques Collin. « Je me suis rendu à discrétion et monsieur le procureur a dû recevoir... » « Toutes les lettres, » dit M. de Granville, « mais vous avez promis de sauver la raison de Mme de Sérisy. Le pouvez-vous? N'est-ce pas une bravade ?»« Je l'espère, » répondit Jacques Collin avec modestie. « Eh bien, venez avec moi, » dit le comte Octave. « Non, monsieur, » dit Jacques Collin, « je ne me trouverai pas dans la même voiture à vos côtés. Je suis encore un forçat. Si j'ai le désir de servir la justice, je ne commencerai pas par la déshonorer. » « Allez chez Madame la Comtesse, j'y serai quelque temps après vous. Annoncez-lui le meilleur ami de Lucien, l'abbé Carlos Herrera. Le pressentiment de ma visite fera nécessairement une impression sur elle et favorisera la crise. Vous me pardonnerez de prendre encore une fois le caractère mensonger du chanoine espagnol. C'est pour rendre un si grand service. Je vous verrai là sur les 4 heures, dit M. de Granville, car je dois aller avec le garde des Sceaux chez le roi. Jacques Collin alla retrouver sa tante, qui l'attendait sur le quai aux fleurs.
« Eh bien, dit-elle, tu t'es donc livré à la cigogne ?»«
Oui. »«
C'est chanceux. » »«
Non, je devais la vie à ce pauvre Théodore, et il aura sa grâce. » »«
Et toi ?»«
Moi, je serai ce que je dois être. Je ferai toujours trembler tout notre monde. Mais il faut se mettre à l'ouvrage. Va dire à Paccard de se lancer à fond de train, et à Europe d'exécuter mes ordres. »
Ce n'est rien, je sais déjà comment faire avec la gonore, dit la terrible Jacqueline. Je n'ai pas perdu mon temps à rester là dans les giroflées.
Que la Ginette, cette fille corse, soit trouvée pour demain, reprit Jacques Collin en souriant à sa tante.
Il faudrait avoir sa trace.
Tu l'auras par Manon la blonde, répondit Jacques.
C'est à nous ce soir, répliqua la tante. Tu es plus pressé qu'un coq. Il y a donc gras ?
Je veux surpasser par mes premiers coups tout ce qu'a fait de mieux Bibi Lupin. J'ai eu mon petit bout de conversation avec le monstre qui m'a tué Lucien et je ne vis que pour me venger de lui. Nous serons, grâce à nos deux positions, également armés, également protégés. Il me faudra plusieurs années pour atteindre ce misérable, mais il recevra le coup en pleine poitrine.
« Il a dû te promettre le même chien de sa chienne, » dit la tante, « car il a recueilli chez lui la fille de Peyrade, tu sais, cette petite qu'on a vendue à Madame Nourrisson. »
Notre premier point, c'est de lui donner un domestique.
« Ce sera difficile, il doit s'y connaître, » fit Jacqueline.
« Allons, la haine fait vivre, qu'on travaille. » Jacques Collin prit un fiacre et alla sur le champ au quai Malaquais, dans la petite chambre où il logeait et qui ne dépendait pas de l'appartement de Lucien. Le portier, très étonné de le revoir, voulut lui parler des événements qui s'étaient accomplis.
« Je sais tout, lui dit l'abbé. J'ai été compromis malgré la sainteté de mon caractère. Mais grâce à l'intervention de l'ambassadeur d'Espagne, j'ai été mis en liberté. »
Et il monta vivement à sa chambre où il prit, dans la couverture d'un bréviaire, une lettre que Lucien avait adressée à Madame de Sérisy, quand Madame de Sérisy l'avait mise en disgrâce en le voyant aux Italiens avec Esther. Dans son désespoir, Lucien s'était dispensé d'envoyer cette lettre en se croyant à jamais perdu. Mais Jacques Collin avait lu ce chef-d'œuvre et comme tout ce qu'écrivait Lucien était sacré pour lui, il avait serré la lettre dans son bréviaire à cause des expressions poétiques de cet amour de vanité. Lorsque M. de Granville lui avait parlé de l'état où se trouvait Madame de Sérisy, cet homme si profond avait justement pensé que le désespoir et la folie de cette grande dame devaient venir de la brouille qu'elle avait laissée subsister entre elle et Lucien. Il connaissait les femmes comme les magistrats connaissent les criminels. Il devinait les plus secrets mouvements de leur cœur et il pensa sur le champ que la comtesse devait attribuer en partie la mort de Lucien à sa rigueur et se la reprochait amèrement. Évidemment, un homme comblé d'amour par elle n'eût pas quitté la vie. Savoir qu'elle était toujours aimée, malgré ses rigueurs, pouvait lui rendre la raison. Si Jacques Collin était un grand général pour les forçats, il faut avouer qu'il n'était pas moins un grand médecin des âmes. Ce fut une honte à la fois et une espérance que l'arrivée de cet homme dans les appartements de l'hôtel de Sérisy. Plusieurs personnes, le comte, les médecins, étaient dans le petit salon qui précédait la chambre à coucher de la comtesse. Mais pour éviter toute tâche à l'honneur de son âme, le comte de Beauvan renvoya tout le monde et resta seul avec son ami. Ce fut un coup sensible déjà pour le vice-président du Conseil d'État, pour un membre du Conseil privé, que de voir entrer ce sombre et sinistre personnage. Jacques Collin avait changé d'habit. Il était mis en pantalon et en redingote de drap noir, et sa démarche, ses regards, ses gestes, tout fut d'une convenance parfaite. Il salua les deux hommes d'État et demanda s'il pouvait entrer dans la chambre de la comtesse. « Elle vous attend avec impatience, » dit M. de Beauvan. « Avec impatience, elle est sauvée, » dit ce terrible fascinateur. En effet, après une conférence d'une demi-heure, Jacques Collin ouvrit la porte et dit «
Venez, monsieur le comte, vous n'avez plus aucun événement fatal à redouter. » La comtesse tenait la lettre sur son cœur. Elle était calme et paraissait réconciliée avec elle-même. À cet aspect, le comte laissa échapper un geste de bonheur. « Les voilà donc ces gens qui décident de nos destinées et de celles des peuples !» pensa Jacques Collin, qui haussa les épaules quand les deux amis furent entrés. Un soupir poussé de travers par une femelle leur retourne l'intelligence comme un gant. Ils perdent la tête pour une œillade. Une jupe mise un peu plus haut, un peu plus bas, et ils courent par tout Paris au désespoir. Les fantaisies d'une femme réagissent sur tout l'état. Oh, combien de force acquiert un homme quand il s'est soustrait, comme moi, à cette tyrannie d'enfant, à ces probités renversées par la passion, à ces méchancetés candides, à ces ruses de sauvage. La femme, avec son génie de bourreau, ses talents pour la torture, est et sera toujours la perte de l'homme. Procureur général, ministre, les voilà tous aveuglés, tordant tout pour des lettres de duchesse ou de petite fille, ou pour la raison d'une femme qui sera plus folle avec son bon sens qu'elle ne l'était sans sa raison. Il se mit à sourire superbement. « Et, se dit-il, ils me croient, ils obéissent à mes révélations et ils me laisseront à ma place. Je régnerai toujours sur ce monde qui, depuis 25 ans, m'obéit. » Jacques Collin avait usé de cette suprême puissance qu'il exerça jadis sur la pauvre Esther, car il possédait, comme on l'a vu maintes fois, cette parole, ses regards, ses gestes qui domptent les fous, et il avait montré Lucien comme ayant emporté l'image de la comtesse avec lui. Aucune femme ne résiste à l'idée d'être aimée uniquement. « Vous n'avez plus de rival », fut le dernier mot de ce froid railleur. Il resta pendant une heure entière, oublié, là, dans ce salon. Monsieur de Granville vint et le trouva sombre, debout, perdu dans une rêverie, comme en doivent avoir ceux qui font un 18 Brumaire dans leur vie. Le procureur général alla jusqu'au seuil de la chambre de la comtesse, il y passa quelques instants. Puis il vint à Jacques Collin et lui dit « Persistez-vous dans vos intentions ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, vous remplacerez Bibi Lupin et le condamné Calvi aura sa peine commuée. » « Il n'ira pas à Rochefort ?»« Pas même à Toulon. Vous pourrez l'employer dans votre service. Mais ses grâces et votre nomination dépendent de votre conduite pendant 6 mois que vous serez adjoint à Bibi Lupin. » En 8 jours, l'adjoint de Bibi Lupin fit recouvrer 400 000 francs à la famille Crottat, livra Ruffard et Godet. Le produit de l'inscription de rente vendue par Esther Gropsek fut trouvé dans le lit de la courtisane, et M. de Sérisy fit attribuer à Jacques Collin les 300 000 francs qui lui étaient légués par le testament de Lucien de Rubempré. Le monument ordonné par Lucien, pour Esther et pour lui, passe pour être un des plus beaux du Père Lachaise, et le terrain au-dessous appartient à Jacques Collin. Après avoir exercé ses fonctions pendant environ 15 ans, Jacques Collin s'est retiré vers 1845. Décembre 1847.